France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous.
Il y a une crise au village olympique et des otages seraient impliqués.
Le monde entier regarde.
Je parle pas de politique, je parle d'émotion.
La police indique que l'équipe israélienne aurait été attaquée par des terroristes.
Il y a une crise au village olympique et des otages seraient impliqués.
C'est notre sujet. On le traite jusqu'au bout.
Qu'est-ce que je dis à mes cadreurs ?
Comment ça ?
On peut montrer des gens se faire abattre en direct à la télévision ?
S'ils tuent un des otages, en direct à la télévision, quelle histoire on raconte ? La nôtre ou la leur ?
Munich était 72. Les premiers Jeux Olympiques organisés en Allemagne depuis le nazisme réunissent 7000 sportifs de 21 pays différents. C'est le premier événement retransmis en direct par les caméras du monde entier. Le 5 septembre à 4h30 du matin, 8 terroristes palestiniens du groupe Septembre Noir pénètrent dans le village olympique, séquestrent 11 athlètes israéliens 22 heures durant, une prise d'otage qui s'achèvera dans un massacre général. Avec son film 5 septembre, sorti voici quelques semaines et sélectionné aux Oscars, son réalisateur Tim Fellbaum a eu l'excellente idée de revenir sur cette tragédie depuis ses coulisses, c'est-à-dire depuis le huis clos vécu par l'équipe de journalistes sportifs de la chaîne américaine ABC, la seule dont les bureaux jouxtaient l'immeuble de la prise d'otage. Le film suit ainsi une poignée de reporters pas du tout formés à ce type d'événement qui vont se découvrir devoir le couvrir en direct pour la planète tout entière. Ils inventent ce qui inonde aujourd'hui, 50 ans plus tard, notre quotidien, le live streaming où l'information continue. Film sur notre temps, 5 septembre, raconte comment le premier événement terroriste mondial avant le 11 septembre nous a fait passer par la terreur de la recherche journalistique des faits au direct d'une performance informationnelle. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Michael Prazan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, documentariste, romancier. Vous sortez cette année aux éditions de l'Observatoire La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles. Gloria Origi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre de l'Institut Jean Nicot et vous avez écrit « La vérité est une question politique » chez Albin Michel, publié la semaine dernière. Et Jacques Athanase Gilbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature générale et comparé à l'Université de Nantes. Vous êtes l'auteur de « Études », enfin, vous avez écrit dans la revue « Études digitales » le récit de la technique du droit aux politiques. Vous avez également écrit aux éditions du CERF « Les variations de l'imitation et une poétique de l'apparaître » et vous travaillez notamment sur la question de la relation entre récit, mythe et théorie, comment un récit devient une théorie ou une conception du monde. Vous travaillez sur la mimésis, la représentation et on va parler de tout ça aujourd'hui à propos de l'information et du terrorisme. D'abord, le film, vous l'avez vu tous les trois, je le disais, il est nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur scénario. Parmi les acteurs, il y a John Magaro, Peter Sarsgaard, Léonie Benesch qui est allemande et Ben Chappell. Le film est coproduit ou produit par Sean Penn. D'abord, un tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres ? Qui est-ce qui veut commencer ? Michael Prazan.
Moi, j'ai trouvé ça remarquable. J'étais allé le voir en avant-première il y a un ou deux mois maintenant, en présence de Tim Fellbaum, le réalisateur, et avec lequel j'ai discuté. Et j'ai trouvé le film absolument passionnant. L'idée de brasser justement ce que vous avez rappelé au début de votre présentation, c'est-à-dire la première confrontation en direct avec un acte terroriste et comment en parler, comment le diffuser, toutes ces questions-là qui se posent pour la première fois à cette équipe qui n'est pas formée, vous l'avez dit aussi, parce que c'est une équipe de journalistes sportifs, mais qui sont de fait obligés d'en rendre compte et donc d'interrompre, comme cela a été interrompu, le cours des Jeux Olympiques. J'ai trouvé ça passionnant. J'aime bien aussi cette idée qu'on retrouve aujourd'hui dans un certain nombre de films, on avait parlé ensemble d'ailleurs de la zone d'intérêt, l'idée du hors-champ. Et ça, on est presque dans une pièce de théâtre. Hein,
oui, parfait.
Et la reconstitution, effectivement, à la fois de l'événement avec le véritable champ, c'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans le village olympique qui est traité en images d'archives. Et puis ce huis clos dans la régie entre ces journalistes, j'ai trouvé ça absolument une idée formidable, quoi.
Jacques Adana Gilbert.
Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai trouvé assez extraordinaire. Je l'ai vu une seule fois. Mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, comment dire, une captation de l'ambiance de l'époque, avec aussi la distance. C'est-à-dire que c'est toujours cette question de traiter d'images qui ont eu lieu en 1972, un long temps après, et à la fois, quelquefois, la fidélité, finalement, rend les films infidèles, c'est-à-dire qu'on en fait trop, on fait dans le vintage, et là, j'ai trouvé qu'il y avait à la fois un soin tout à fait extraordinaire au décor, et puis, il y avait un langage cinématographique qui réussissait à faire passer très très bien cet aspect du passé dans le présent. Et je pense que notamment, ce qui a été souligné par la personne qui vient de parler avec moi, avant moi, c'est-à-dire le cadrage, le soin des images, et ça, j'ai trouvé que c'était absolument remarquable. Mmh.
Gloria Auriguet.
On est en train vraiment de faire de la pub au film, parce que moi aussi j'aimais, j'aimais beaucoup la reconstruction de l'époque. J'ai trouvé ça très bien faite, et la matérialité de la de l'enjeu, enfin du défi, enfin c'est avoir les câbles, avoir les fréquences pour pouvoir transmettre tous les aspects matériaux que, disons, dans notre ère digitale, etc., sont moins visibles. Enfin là vraiment la communication était encore une histoire de câbles. Enfin, ce que je trouve, c'est assez fort,
et le côté artisanal, voilà, la manière dont il traite par exemple les synthés, c'est-à-dire les inscriptions écrites qu'on voit dans les images. On voit la fille qui s'occupe de ça,
qui dessine, qui les colle, voilà.
Et
voilà.
En fait, ça fait partie de l'image qui est filmée.
Voilà.
Et ça, c'est vraiment
tout, l'aspect matériel, disons. Je trouve que pour quelqu'un qui s'intéresse, ça m'intéresse aussi, enfin, au rôle des technologies. Enfin, c'est vraiment la transformation qu'il y a eu du rapport à la technique des années 70 à aujourd'hui, c'est énorme. Enfin, c'est comme une dimension qui a un peu...
Il explique, Tim Feldbaum, vous avez rencontré, mais quel présent.
Oui, oui.
Il explique comment il a fabriqué son film. Il a vraiment été cherché sur ce plan, justement, sur ce plan de la recherche du détail technologique, puisque tout se passe en huis clos. Il est allé vraiment chercher les éléments qu'il fallait pour reconstituer le plus exactement possible ce qu'était la technologie de l'époque. Il est allé... il raconte qu'il a trouvé que les détails étaient centraux pour le film, et qu'il est allé chercher des collectionneurs, parce qu'il y a des collectionneurs qui existent, de Munich 72, qui lui ont retrouvé jusqu'aux énormes caméras qu'il y avait à l'époque et qu'on ne trouve plus nulle part aujourd'hui. Donc il est allé chercher vraiment très précisément les choses.
Et son conseiller historique sur ce film est inestimable, puisqu'il s'agit, je crois me souvenir, de Geoffrey Mason, qui était le responsable de la régie, qui est le dernier journaliste, en fait, encore vivant, qui peut témoigner de ce qui s'est passé, et avec lequel il a passé des mois entiers à reconstituer très précisément la régie telle qu'on la voit filmée dans le film, et aussi tous les dialogues dont il se souvenait, parce que c'est un événement qui a profondément marqué ce journaliste, et il a restitué un certain nombre de dialogues qu'on retrouve dans le film. Donc c'est quelque chose, une reconstitution très précise.
Et ils parviennent à créer une tension dramatique avec très peu de choses, parce que les personnages, il y a effectivement Geoffrey Mason, qui est joué dans le film par John Magaro, qui est joué comme un jeune producteur déterminé et ambitieux, qui a une trentaine d'années, et qui est face à son chef, qui est joué par Peter Sarsgaard, et ils vont improviser vraiment avec la traductrice allemande Leonie Benesch, qui joue un rôle très important dans le film. Ils vont devoir, à travers leur tension personnel, ils vont essayer de couvrir cet événement. Un des éléments très importants, c'est également les images. Ils sont allés chercher les images réelles auprès d'ABC, et ils les avaient sur les écrans en permanence pendant qu'ils jouaient les scènes, qui étaient filmées en plan séquence essentiellement dans un tout petit local, de manière à jouer au maximum la tension et la véracité de la situation. Et Feldbaum raconte qu'ils sont allés jusqu'à couper l'air conditionné, parce que ce jour-là, dans les locaux d'ABC, l'air conditionné ne marchait pas. Donc ça va très loin, et tout le film joue comme ça, de ce huis clos où en fait on ne voit rien vraiment de ce qui se passe, on ne voit qu'à travers les images, en fait. Et on va d'ailleurs en parler en détail de ce passé.
Il y a d'ailleurs un acteur français qui joue dans le film.
Oui. dont le nom m'échappe là,
d'origine maghrébine, qui est très bon. Alors il a un rôle, pas c'est un second rôle, mais il était présent lors de l'avant-première à laquelle j'ai assisté en présence du réalisateur, et il expliquait aussi comment les acteurs avaient été mis en condition, justement en étant filmés en continu dans cette atmosphère étouffante. En plus, c'est une époque bon un peu Mad Men où tout le monde fume, etc. Et il était complètement perdu parce qu'il savait pas ce qui serait gardé au montage, ce qui serait filmé ou pas. Et ça a permis comme ça de recréer cette ambiance confinée de huis clos qui s'y est fondamentalement bien au film une fois le montage et le découpage réalisé.
Jacques-Alain Gilbert, vous aviez quel âge à Munich, à Munich, au moment de Munich en 72?
Je devais avoir à peu près 13 ans et j'avais suivi les émissions à la télévision. Alors, j'arrive pas à me souvenir si on avait une télé couleur, une télé noir et blanc, puisqu'ils ont l'air de dire qu'à l'époque, la diffusion était en Europe en noir et blanc. Moi, je me souviens plutôt couleur, mais c'est peut-être une reconstruction d'après coup. Et donc j'avais suivi les Jeux Olympiques à l'époque avec évidemment le côté invraisemblable de l'histoire qui m'est paru très 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 surprenant.
Mmh. Oui, il y a un moment donné dans le film où Jim McKay, donc le vrai présentateur d'ABC qu'ils utilisent dans le film, dit qu'il montre les images des joueurs olympiques qui continuent à jouer ou à lire le journal quand ils ne jouent pas dans le village olympique pendant la prise d'otage, et puis la caméra repasse sur les policiers allemands qui essayent d'entrer dans les chambres. Et le journaliste dit retour à la réalité, et la réalité apparaît effectivement comme l'élément le plus irréel de toute la situation, en fait, est complètement irréel.
Je pense à Nicolas Cage dans son livre The Glass Cage. Il explique que finalement les accidents d'avion viennent aussi du fait que aujourd'hui les boutons automatiques finalement n'ont plus de toucher, c'est-à-dire que tout fonctionne avec des relais. Et moi, j'ai été très intéressé de voir qu'on a encore des boutons qui s'enfoncent, des interrupteurs qui bougent et qui sont pas simplement. En réalité, la technologie numérique a eu deux effets, évidemment. C'est qu'elle a envahi la quasi-totalité du monde actuel, mais aussi c'est une technologie qui ne se montre pas comme technologie. Et à l'époque, effectivement, comme l'a souligné la personne qui était là, il y a des fils, il y a des branchements. On est encore dans un monde, on va dire, où la connexion n'est pas simplement une métaphore.
Oui, absolument. Mais alors, il y a un paradoxe, et on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a un paradoxe entre ces éléments extrêmement concrets que les journalistes manipulent. Ils ont du mal à sortir la caméra du studio, elle est très lourde, il faut un type très costaud pour la sortir. Et ce qui se passe, c'est-à-dire que ils sont complètement immédiatement dépassés par la réalité à laquelle ils vont être confrontés, et ils ne l'atteignent jamais d'une certaine façon. Il y a une sorte de paradoxe entre le concret dont ils sont entourés dans le film et la réalité. Ils ouvrent une porte à un moment donné, ils voient l'extérieur, mais c'est tout ce qui se passe. En fait, ils n'arrivent jamais à voir ce qui se passe. Gloria Ruggit, sur cet aspect.
Oui, je pense que vous dites une chose qui est assez centrale pour comprendre pourquoi un film comme ça peut résonner à ce point aujourd'hui, c'est au fond, c'est un peu la thèse de Baudrillard, enfin, que la réalité n'existe pas. Enfin, Baudrillard l'avait plutôt décliné sur la première guerre du Golfe dans les années 90, qui était la grande guerre CNN. Enfin, je veux dire qu'on a tous suivi. Je me souviens très bien.
En direct et sans image.
En direct et sans image tout le temps. Enfin, c'était un continu, justement. Et on a eu cette guerre à la télé, enfin, disons, c'est très intéressant. 72, j'avais pas réfléchi à ça avant, parce que c'est un événement qui est un peu le début de cette espèce de disparition de la réalité, et, disons, que pour rendre les faits pour représenter les faits, les médias, en fait, les avalent. Enfin, les avalent, et donc ça devient très difficile de comprendre. Donc c'est très bien dit, comme vous disiez, enfin, ce fait qu'au fond, cette incroyable matérialité qu'il y a dans les films de la machine du média, enfin de la télé, la grande caméra, les câbles, voilà toutes les solutions qu'il faut trouver. Et au fond, à l'extérieur, il y a presque rien.
Ils ne savent pas quoi. Il y a un gros problème qui va se poser très vite, filmer et comment le filmer.
Moi, c'est ce que je trouve passionnant dans cet épisode et dans ce dont rend compte le film. C'est la première fois, effectivement, alors je crois savoir aussi que c'est peut-être la première fois qu'un événement mondial comme les Olympiques est retransmis en direct.
Oui.
Et que survient donc cette prise d'otage, cet attentat terroriste. Et donc les journalistes sont confrontés aux questions qui nous taraudent encore aujourd'hui, mais c'est pour la première fois qu'ils y sont confrontés. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer? À qui s'intéresser? Aux terroristes ou aux victimes? Et toute cette question fuse dans un huis clos qui dure en fait 24 à 48 heures. Et par ailleurs, il y a aussi, et ça je trouve ça très fort aussi de le montrer et de l'illustrer, cette espèce de mise en abîme à laquelle ils sont confrontés tardivement, de même que l'État allemand. Hein. C'est-à-dire que ce qu'ils filment est retransmis chez les terroristes eux-mêmes. Et donc ils voient ce qui se passe à l'extérieur.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, sans le vouloir, ils donnent des informations aux terroristes sur l'emplacement de la police sur les toits, parce qu'ils prennent conscience que, et à un moment donné, ils voient une télé allumée dans une des chambres à travers la vitre, et ils prennent conscience qu'ils sont en train d'informer les terroristes de ce qui se passe à l'extérieur.
Et bien entendu, il y a un dernier point que je voulais soulever, c'est-à-dire le lieu très particulier de Munich, qui fait référence évidemment à 1936, aux nazis, et il y a tout cet arrière-plan qui n'est pas vraiment traité par le film, sauf dans certains dialogues, parce que l'un des membres de l'équipe est juif, mais c'est le cas aussi de beaucoup des athlètes israéliens qui vont tous mourir. Certains étaient rescapés des camps, je pense notamment à l'un d'entre eux qui était allé visiter le camp de Dachau avant de revenir.
Qui était tout près.
Et tout ça résonne énormément. Et il y a quelque chose qui est très symboliquement fort et qui montre aussi une forme d'inconscience des organisateurs allemands, mais aussi de la police allemande de l'époque. Leur GIGN à eux s'appelle ESK, Einsatz Sonderkommando, qui était le nom en fait des commandos mobiles de tuerie nazis pendant la guerre. Donc il y a tout cet arrière-plan aussi. Qui revient en mémoire à l'occasion de cet événement.
Effectivement, Munich concentre une série de contradictions modernes du XXe siècle. C'est à la fois l'affrontement Est-Ouest, parce que le commando palestinien a été entraîné en Allemagne de l'Est, avec des agents de l'Allemagne de l'Est avant d'investir le village olympique en Allemagne de l'Ouest. C'est le moment où le conflit Est-Ouest passe au conflit Nord-Sud, puisque c'est le Moyen-Orient. Et effectivement, il y a tout ce passé historique du nazisme, puisque les Jeux Olympiques sont là, sont organisés en Allemagne pour, en quelque sorte, donner à l'Allemagne de l'Ouest, à l'époque, la possibilité de renaître d'une certaine façon.
Nouvelle Allemagne. Est encore tirée vers le fond par son passé nazi.
Donc tout ce carrefour-là, tous ces éléments font de Munich un événement historique majeur, avec en plus la naissance, effectivement, de la communication contemporaine.
Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce passage qui vient d'être souligné, là, avec les hommes sur le toit, et que on se demande ce qu'on voit, et puis tout d'un coup, ils se disent, oui, mais finalement, donc, les terroristes aussi le voient, parce que finalement, ça signifie qu'ils ne voient pas ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils croient voir des gens sur le toit, mais ils se rendent pas compte que cette image, en fait, elle est retransmise dans la totalité de la boucle. Et ce qu'ils ne voient pas, c'est la boucle de rétroaction.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils comprennent pas que le direct, ça existe pas. Il y a forcément une médiation technologique. Il y a forcément une opération qui fait que ce qu'on considère comme direct n'est jamais direct. Et en l'occurrence, c'est pas direct parce que les images passent dans une boucle qui leur échappe. Et ça, j'ai trouvé que c'était un passage très intéressant du film.
Absolument. On va revenir là-dessus, d'ailleurs, dans une seconde.
burning. All the while the world is turning to noise. Oh, the more that it's surrounding us, the more that it destroys. Turn up the signal, wipe out the noise.
Voilà, The Information and the Noise, Peter Gabriel, 5 septembre, La Terreur et l'Information, justement. Jacques-Anas Gilbert, je crois que c'est Walter Benjamin qui, dans son livre sur Baudelaire, est le premier à faire un parallèle détaillé entre le développement des attentats terroristes à la fin du 19e siècle et l'explosion de la presse, des médias. Faire le parallèle entre les médias et la presse, il me semble.
Oui. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte que la diffusion des images, et la question apparaît particulièrement quand est posé un problème de déontologie. Finalement, est-ce qu'on peut faire parler les images? Dans l'ambassade, Chris Marker montre bien que avec des images, on peut imaginer un scénario ou un autre. Et alors qu'il peut y avoir éventuellement une vérité de la parole, est-ce qu'il peut y avoir une vérité des images? C'est-à-dire, quelle est la signification de cette sorte d'évidence visuelle qu'on produit, qu'on fabrique? Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est posé dans le film très très bien, comme un objet assez énigmatique, finalement.
Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est la question qui se pose constamment quand il demande, on l'a entendu dans la bande-annonce, quand il demande si on filme en direct quelqu'un qui se fait tuer par les terroristes, qui appartient le récit? Est-ce que c'est à eux ou est-ce que c'est à nous? Et c'est-à-dire que le terrorisme pose une question qui est que le fait cesse d'être un fait, en quelque sorte. Gloria Origi.
Je trouve que ça, c'est le point central de notre conversation, à part l'intérêt, de toute façon, général de ce film, de la beauté de ces films. Enfin, c'est exactement la sublimation en image, enfin, d'un événement. D'abord, quel est le rapport à l'événement? Enfin, est-ce que c'est l'image qui crée l'événement ou l'image tout simplement enregistre ou représente un événement? Enfin, si on prend la ligne de certains penseurs, j'ai cité Baudrillard tout à l'heure, c'est plutôt l'image qui crée l'événement. Enfin, c'est pas, vous n'avez pas une réalité là dehors qui était là. Et bien sûr, vous citiez Benjamin, enfin, les rapports entre terrorisme et explosion de la presse. On peut le voir aujourd'hui aussi, explosion des images, oui. des moyens de communication, parce que justement, c'est l'énorme importance symbolique qui est presque plus importante que ce qui se passe vraiment. Donc, rappelons-nous le 9 septembre. Le 9 septembre, bien sûr, c'est un vrai événement.
Le 11 septembre.
Excusez-moi, le 11 septembre, 9-11, enfin, c'est vrai que oui. C'est le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est un événement. Enfin, j'ai plein d'amis à New York qui l'ont vu par la fenêtre et tout ça. De l'autre côté, c'est la réussite visuelle de cet attentat qui est spectaculaire. Enfin, les deux avions qui rentrent et qui...
Mais alors, ouais.
Et donc, vraiment, c'est mettre à... Je veux dire, bien sûr, la question dans le film se pose, enfin... Les terroristes n'étaient pas naïfs. Enfin, être là avec les télévisions du monde entier, avec une audience globale, c'est ça que Munich est devenu Munich.
Oui. Enfin, oui. Ce que rappelle le film, et ce que vous avez judicieusement rappelé, Marc, également, c'est que le terrorisme n'existe pas sans les médias et il accompagne l'histoire des médias. Le média remplit trois fonctions dans l'organisation ou la conception ou la diffusion d'une cause ou d'un acte terroriste. D'abord, il sert à passer des messages, mais depuis l'origine même des médias, c'est-à-dire dans les journaux, via les petites annonces, on communiquait de manière codée avec l'ensemble d'une organisation, et ça servait aussi à préparer les attentats. La deuxième chose, et je rappelle que 1972, on est en plein dans ce qu'on a appelé le terrorisme publicitaire. Il s'agit de publiciter une cause, en l'occurrence la cause palestinienne, et c'est l'un des attentats parmi bien d'autres qui ont été initiés d'ailleurs par... non pas par l'OLP, comme c'est le cas ici, mais plutôt par le FPLP, qui était son challenger au sein de la centrale palestinienne de l'époque. Et donc, il faut faire des opérations spectaculaires qui vont être couvertes par les médias. Ça sert à publiciter une cause, mais ça sert aussi à recruter, parce qu'en faisant savoir qu'on a perpétré un attentat le plus spectaculaire et le plus médiatisé au monde, ça permet de recruter de nouveaux combattants, et c'était aussi le cas du 11 septembre, et on voit bien comment tout ça a été transposé ensuite à la télé, c'est ce que montre le film, et puis par la suite, par Internet. Mais les modalités n'ont pas changé.
Et Jacques-Anna Gilbert, les anarchistes de la fin du 19e siècle définissent le terrorisme comme la propagande par le fait, c'est-à-dire que le fait devient un langage qui ne renvoie qu'à lui-même, un acte de langage en quelque sorte qui n'existe que comme que dans l'instant de son existence en quelque sorte.
Mais le fait est fait, et la fiction vient de fingerer, fabriquer avec les doigts, ce qui fait que finalement, entre fait et fiction qu'on oppose souvent, il y a une grande proximité. Et moi j'ai trouvé très intéressant effectivement, et ça m'a paru vraiment quelque chose de critique, c'est-à-dire quand on demande quel est le récit qui va dominer. Je pense que ça, c'est une question d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis un peu demandé quels étaient les non pas les anachronismes, mais disons les choses d'aujourd'hui dans ce film qui rend si bien l'atmosphère du début des années 70. Effectivement, la question du récit, je pense que c'est vraiment une question d'aujourd'hui, du rapport entre fait et fiction, entre récit et théorie. Il faut savoir quand même que en Grèce, à l'origine, il n'y a pas une énorme différence entre mythos et logos. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où Gorgias, Platon, puis Aristote vont travailler un petit peu sur justement la spécificité du logos et le séparer du mythos, qu'on va opposer les deux. Mais finalement, dans les deux, il y a une séquentialité. On met des choses avant, des choses après. On essaie de présenter quelque chose. Et un récit... En fait, un récit ne démontre pas, mais il montre. Et ça, c'est quelque chose que le film fait vraiment très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, la granularité des images. C'est-à-dire qu'on voit à la fois des extraits d'images d'époque, avec les lignes des téléviseurs anciens, des couleurs qui sont un petit peu aussi de l'époque. Le fait que le film soit filmé très large, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit clos, mais c'est filmé très large, et à l'intérieur, on voit les petites fenêtres de l'époque. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie de l'apparatus critique du film.
Mais il y a un élément, c'est que le récit, donc le récit terroriste, ne raconte rien. C'est un fait qui se veut un langage qui ne raconte littéralement rien. On le voit quand les journalistes sont à la recherche constamment de la réalité qu'ils n'arrivent pas à trouver. Il y a un moment donné, vers la fin du film, où la photographe allemande est à l'aéroport et elle revient ses collègues lui demandent ce qu'elle a fait là-bas, et elle dit rien. Elle a cherché à prendre des photos de ce qui se passait, et elle est revenue littéralement sans rien. Et il me semble que c'est un des éléments qui renvoie à l'illisibilité des buts du terrorisme, et qui rend la chose très très difficile à saisir.
Alors ça, en fait, moi je le mettrais un peu en relation avec la question du martyr. Parce que le martyr chrétien, puisqu'il meurt, ne raconte rien. C'est-à-dire sa théophanie demeure pratiquement inconnue. Tout le récit qui va se développer, la légende, va être fabriqué après. On peut dire que le martyr musulman, le chahid, c'est un peu différent, puisque c'est un martyr grillé. Mais on voit un peu la même chose. Tout à l'heure, vous parliez des attentats du 11 septembre. Effectivement, du 11 septembre, finalement, on a ces images après passées en boucle, et la légende se fabrique par une sorte de sédimentation autour de ce qui est un peu un non-événement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qui s'y passe, mais après, ça se développe.
Il y a un élément dans le film qui est, enfin, il y a quelque chose de troublant dans le film, c'est que 5 septembre, c'est un dispositif de filmage qui est presque du documentaire. Ils ont essayé de faire du cinéma vérité autant que possible. Ils se sont inspirés, ils ont beaucoup interviewé Geoffrey Mason, comme vous le disiez, Michael Prazan, qui dit nous n'avons pas eu le temps de nous poser des questions, nous étions trop occupés à couvrir ce qui se passait dans la vie réelle, et le cinéaste explique qu'il a voulu reproduire ces conditions-là, et à la fin, en post-production, pendant qu'ils montaient le film, la réalité les a télescopés, puisque le 7 octobre 2023 est arrivé pendant qu'ils étaient en train de monter le film. C'est très
étonnant. Oui, le nombre d'échos que produit ce film jusqu'à faire écho, ils sont en post-production effectivement quand arrive le 7 octobre. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est d'une certaine manière le hors-champ du hors-champ, ce que ne montre pas non plus le film, parce que Anke Spitzer, qui était la femme de l'entraîneur de l'équipe d'escrime, qui a été tuée dans la prise d'otage et l'attentat du 5 septembre 1972, rapporte que les deux personnes dans la chambre du village olympique qui ont été assassinées les premiers ont été torturées et ont été, pour l'un d'entre eux, émasculées. Oui. Il y a des éléments qui sont déjà là, et qui vont se reproduire ensuite, effectivement, le 7 octobre 2023, dans la manière... Et l'autre chose que ne montre pas le huis clos du film, c'est... Bon, on a bien compris que les Allemands n'étaient pas vraiment, préparés à ce type d'intervention et à ce type d'attentat. Ils sont parfaitement ridicules, déguisés en sportifs, en train d'escalader gauchement les murs du village olympique. Mais surtout, les tireurs d'élite, ensuite, qui vont essayer d'interrompre le commando palestinien sur le tarmac avec les hélicoptères, n'ont jamais pris pour certains un seul cours de tir. Mmh. Et il y a fort à parier, enfin on sait aujourd'hui qu'un certain nombre d'athlètes israéliens qui étaient encore vivants ont été tués sous les balles allemandes. Donc il y a aussi toutes ces emberlificotages, si vous voulez, de l'impréparation d'un État, d'un pays, et pas des moindres, l'Allemagne, à être confronté à ce type de situation et à l'improvisation qui en découle.
Alors, je voudrais qu'on finisse sur un sujet qui est effectivement qui a un peu à voir avec l'impréparation. C'est le terrorisme consiste à suspendre le. C'est un récit qui suspend les récits en quelque sorte. C'est par saturation de l'information que l'information devient impossible. Et il me semble que je me demande si dans ce lien entre naissance de l'information permanente et du direct à ce moment-là et à l'occasion d'un événement terroriste, on n'a pas une sorte de paradigme de ce qu'est devenu l'information aujourd'hui, où pour communiquer un message particulièrement politique, il faut saturer l'espace absolument au détriment du sens ou du discours. On le voit aux États-Unis aujourd'hui avec l'administration Trump, on le voit partout en fait.
Oui, sûrement l'aspect saturation, mais aussi ce que je trouve que c'était bien fait dans le film et qui pourrait répondre en partie à votre question. Il y a un certain moment, le directeur qui dit allez interviewer Mark Spitz, le nageur américain juif qui gagne 9 or ou quelque chose comme ça au 7 à Munich. Et pourquoi? Mais parce qu'il est juif, on est en Allemagne, ça fait émotion, ça fait voilà, ça, donc ça crée un fait. Ouais. Donc c'est vrai que même moi, je me souviens le nom de Mark Spitz. Enfin, voilà. Et bien sûr, il a gagné des médailles. Donc bien sûr, il était un grand nageur, mais aussi il y avait le symbolique qui était là. Donc c'est bien. au-delà du fait de saturer l'espace, enfin, ce qui est aujourd'hui puis une stratégie qui est non seulement médiatique mais politique, enfin, saturer l'espace informationnel complètement, c'est construire les faits avec un certain potentiel émotionnel. Enfin, oui. Donc répéter certaines formes de narration qui ont un potentiel émotionnel. On voit, je sais pas, sur l'immigration, sur les enfants tués quelque part dans le monde, et etc. Et donc, la fabrication des faits qui ne veut pas dire que les faits n'existent pas, mais que ce que le public reçoit est quand même un produit, une fabrication. Ce n'est pas, on n'a pas accès à ce qui s'est passé vraiment. Directe.
Jacques Ananas, Gilbert, sur cette question du est-ce qu'il n'y a pas une terrorisation du langage, y compris politique, c'est au sens où c'est le plus brutal et le plus immédiat et le plus constant dans son message qui gagne en quelque sorte.
Il y a une logique de la sidération, mais moi j'ai beaucoup aimé la discussion entre Geoffrey et Marvin sur la question de la déontologie
dans le film.
Finalement, un événement deux fois vérifié et en réalité évidemment, Geoffrey ne vérifie pas deux fois, donc il diffuse la fausse information.
À la fin du film, oui.
Oui, ce qui est une énorme erreur, mais à la fin, on le félicite. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'il a fait un bon boulot. Pourquoi? Mais parce que la logique du spectacle, finalement, et du suspense, de la story, a dépassé la logique de la relation des faits. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une logique qui est véritablement une logique cinématographique. Donc, si c'est un film sur le documentaire, c'est un film sur des films. C'est-à-dire que on voit bien que quand ils sortent à un moment donné et à l'air libre et qu'ils regardent le ciel avec des hélicoptères, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une boucle de rétroaction d'images par rapport à des images. Et là, la vérité est devenue un objet un petit peu incertain.
Mais le paradoxe étant que la violence réelle est le moteur de ce non-sens en quelque sorte. C'est-à-dire, il faut cet acte de violence pour déstructurer complètement tout discours et faire en sorte que tous les discours soient dans une sorte de mimétisme de l'acte initial. Non.
Et en même temps, il y a une espèce de grande fraîcheur face à comment gérer tout ça, une sorte d'improvisation. Et on voit bien en plus, à ce moment-là, qu'il n'y a pas de réflexion sur les images. Elles sont là, il faut les diffuser. Bon, alors on se pose un peu la question, est-ce qu'on peut tout montrer ou pas? Mais je crois que cette réflexion aujourd'hui, elle est presque allée trop loin. C'est-à-dire que, à force de ne plus vouloir montrer, on n'est pas loin de la censure parfois. Enfin, je veux dire, on peut plus filmer une image dans la rue sans flouter les gens. Enfin, on voit bien qu'à l'époque, dans les années 70, l'image est brute et puis on l'expose au public sans véritablement réfléchir à ce qu'on peut montrer un cadavre, est-ce qu'on peut montrer une foule, est-ce que il y a pas non plus évidemment encore de droit à l'image, de gens qui protestent parce qu'ils se retrouvent dans telle ou telle situation visible de chacun, etc. Et on voit bien aujourd'hui, puisqu'on va d'un terrorisme à l'autre d'une certaine manière, comment il y a lors des libérations des otages par le Hamas à Gaza, on essaye de plus en plus finalement de ne pas montrer les cérémonies obscènes qui sont mises sur pied par le Hamas à ce moment-là, flouter les visages des otages qui sont libérés. Enfin, je trouve intéressant et je trouve assez frais d'une certaine manière les questions de discours auxquels ils sont confrontés, de récits auxquels
dans
ils sont,
le film, hein.
Mais aussi dans le film, mais aussi les questions qu'ils ne se posent pas au fond sur les images et qu'on a tendance nous à trop se poser peut-être.
C'est-à-dire que on a affaire à un double régime, quoi. C'est-à-dire que les images qui sont très contrôlées d'un côté à la télévision et puis les images qui sont de fait pas contrôlé du tout sur les réseaux, et on n'arrive pas du tout à se régler là-dessus.
Il y a aussi peu de retour du public sur les images à l'époque. Au fond, la télé,
dans les années 70,
voilà,
oui, bien sûr,
est toute puissante. Ouais. Aujourd'hui, l'image, tout discours est contesté en temps réel via Internet, via des manifestations sans cesse de plus en plus présentes du public.
Oui, c'est une des dimensions du film. C'est qu'ils sont encore dans une position de surplomb. C'est une équipe qui est encore... Donc leur responsabilité, ils sont le seul canal par lequel quelque chose de la réalité va pouvoir passer.
La boucle, c'est pas généralisé, en fait.
Jacques-Anas Guilbert.
Oui, excusez-moi. La boucle, c'est pas généralisé. C'est-à-dire qu'à l'époque, le retour est relativement lent, puisque les médias sont encore très, très hiérarchisés, en fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on se rend compte que cette recherche de l'immédiat aboutit en fait à une à une multiplication des médiations. C'est ça que je trouve intéressant. Et de ce point de vue-là, je trouve que le film, il se place vraiment à la bonne distance. On peut dire que c'est un travail qui a une grande qualité historique, je trouve.
Voilà, bon, on va devoir finir sur cette bonne parole. Merci à tous les trois.
You can't depend on your family. You can't depend on your friend. You can't depend on no beginning. You can't depend on no end. You can't depend on intelligence. You can't depend on God. You can depend on only one thing. You need a busload of faith to get by. 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 You need a busload of faith to get by. You can't depend on the goodly hearted. The goodly hearted made lampshades and soap. You can't depend on no sacrament. No Father, no Holy Ghost.
Voilà, merci à tous les trois. Merci Gloria Origi.
Merci beaucoup.
Je rappelle le titre de votre livre, La vérité est une question politique, chez Albin Michel, l'année dernière. Merci Jacques-Anas Guilbert d'avoir été là depuis Nantes. Et merci Michael Prazan. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir, La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles, aux éditions de l'Observatoire. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la technique Jean-Guy Meige et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.
You can't depend on no miracles. You can't depend on the air. You can't depend on any wise men. You can't find them 'cause they're not there.